Je poursuis cette question du péché, du péché lié à l'identité. D'ailleurs, le Seigneur a conduit aussi Dan Snead à nous en parler. Pour ceux qui n'étaient pas là, je ne vais pas résumer ce matin, mais en gros, c'est aussi de ça qu'il s'agissait, de l'identité, dans l'efficacité du ministère. L'efficacité de... nous avons tous envie, c'est normal, en tant que chrétien, avoir une efficacité dans notre ministère, hein, dans ce que nous exerçons, le service que nous rendons pour le royaume de Dieu. Hein, nous voulons être efficaces, hein, comme le Seigneur. Et donc, il a parlé de cette question d'identité. Donc, ça tombe bien qu'on puisse creuser un peu cette question, parce que vous voyez, j'avais fait un sondage il y a quelques semaines au milieu de vous, et quand il s'agissait du péché, ce qui est plus ressorti, c'est le faire, le mal faire. Du péché. Et c'est normal parce que tout un chacun, on a cette tendance à voir le péché dans ce qu'on fait mal. Hein? Alors que la première notion du péché, c'est dans le mal-être, pas dans le mal-faire, dans le mal-être. Et le mal-être, on a plus de mal à l'identifier. Or, c'est la première chose que Dieu mentionne lorsqu'il écrit avec son doigt sur les tables de pierre, hein, sur les commandements. Il dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Quand il écrit ça, c'est un problème d'identité. C'est pas un problème de faire, c'est un problème d'être. Parce que ça touche à l'idolâtrie. Ça touche à qu'est-ce que j'adore. Et donc c'est directement lié à la question d'identité. Mais c'est des notions qui ne sont pas évidentes. Ce que j'essaye, c'est de vous le rendre évident, mais en même temps, moi j'apprends beaucoup au travers de cette préparation des messages que je vous apporte, parce que ça nous aide à nous remettre dans la bonne direction pour ensuite bien faire. Mais il faut d'abord bien être, hein, être bien dans sa peau de chrétien. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas bien dans leur peau de chrétien, ils sont gênés. Pourquoi ? Parce qu'il y a les pressions spirituelles, il y a les pressions du monde, il y a les pressions, et on essaie de se conformer. Et en se conformant au monde, eh bien, on s'éloigne de l'amour de Dieu. Puisque Jean dit, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc c'est quelque chose qu'il faut combattre, mais non pas en essayant de le repousser, mais, voyez-vous, c'est pas en réagissant contre, c'est en étant pour. En étant pour l'amour de Dieu, en étant pour ouvert au Seigneur, très souvent on réagit. Et ça, c'est toujours très mauvais. Ça donne des révolutionnaires, ça donne des réactionnaires, etc. Nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas être des réactionnaires. On doit être des actionnaires. Hein? Il faut qu'on investisse dans le royaume de Dieu. Amen. Donc on le fait étant conscient de ce que nous sommes. Et donc la question de l'identité. Je vais vous lire une petite histoire pour que vous puissiez bien situer où nous en sommes. Dans le film Rocky, est-ce qu'il y en a qui connaissent le film Rocky ? Moi je ne le connais pas. Rocky, ah ! Les boxeurs ! Merci de m'informer parce que je ne le connais pas. Dans le film Rocky, la petite amie du héros, il s'appelle comment le héros ? Rocky. Bon, voilà. Dans la petite amie de Rocky, lui demande pourquoi il est si important à ses yeux d'aller jusqu'au bout. C'est un boxeur, hein, c'est ça ? Pendant un match de boxe. Voilà ce qu'il dit. Je saurai alors que je ne suis pas un bon à rien. C'est bien ce qu'il dit dans le film ? Je saurai alors que je ne suis pas un bon à rien, lui répondit-il. Un autre film, Les chariots de feu, vous connaissez ? Chariots de feu. Voilà. L'un des personnages principaux explique pourquoi il s'entraîne aussi dur pour participer à la course de 100 mètres aux Jeux Olympiques. Et voilà ce qu'il déclare. Il déclare qu'à chaque fois qu'une épreuve commence, il a 10 secondes pour justifier son existence. Ces deux hommes, on pourrait en prendre d'autres, hein, bon, ces films sont tirés certainement d'histoires vraies la plupart du temps, et donc ils mettent en scène le problème de l'identité. Ces deux hommes considèrent l'exploit sportif comme leur raison d'être. Et vous, on est dans l'être. Seuls capables de donner un sens à leur vie. C'est le problème du sens. Voyez-vous, on peut être chrétien et ne pas connaître le sens à notre vie. Là, c'est le problème de l'appel. Quel est ton appel? Très souvent, je pose la question à des leaders, est-ce que tu connais ton appel? Parce que l'appel, c'est ce qui vient de Dieu. Voyez-vous, moi j'ai fait beaucoup dans le management de cadres, des formations où on nous apprenait comment faire une vision. Et les gens cherchent à avoir une vision, bien sûr, pour l'entreprise, pour qu'elle aille loin, hein, et qu'en ce moment, Airbus, ça marche bien. Hein, voilà, donc c'est une entreprise qui marche. Ceux qui veulent que l'entreprise marche, ils essaient de donner une vision. Et dans la vision, la première chose qu'on vous demande, c'est de définir votre intention. Quelle est ton intention? C'est quoi l'intention? Qu'est-ce que tu veux être? L'intention, c'est qu'est-ce que tu veux être. Donc ils ont ce sens que s'il n'a pas de sens de notre intention, on ne peut pas développer quoi que ce soit qui marche derrière. Quelle est mon intention? Alors l'intention, c'est neutre. Mais si vous l'appliquez à la parole de Dieu, quelle est l'intention de Dieu pour toi? Quelle est l'intention de Dieu pour moi? Voyez-vous, il y a une intention, mais une intention supérieure. C'est Dieu qui a une intention sur moi. C'est ce qu'on appelle l'appel ou la vocation. Si on ne le sait pas, on se donne une intention. On est obligé. Sinon, on va nulle part. Hein. Bon, vous voyez des gens qui tournent en rond toute leur vie parce qu'ils n'ont pas d'intention. Il faut une intention. Mais nous, en tant que chrétiens, nous soumettons notre intention à celle de Dieu. Puisque c'est Dieu qui connaît mieux ce pourquoi il nous a fait. Ce pourquoi nous sommes là, pour quelle existence nous sommes ici. Pour quelle est la raison d'être. Vous voyez, donc l'intention est importante. Pour les gens du monde, parce qu'ils veulent réaliser quelque chose qui marche. Mais pour nous, c'est important, si nous voulons réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu. Donc, est-ce que vous vous êtes posé la question de l'intention de Dieu pour vous, pour toi? Quelle est l'intention pour toi? Quand on n'a pas donné la réponse à ça, on tourne jusqu'à ce qu'on la trouve. Et il y en a malheureusement qui ne la trouvent jamais. Là, ceux qui sont dans le sport, vous voyez, ils se sont donné cette intention pour être les meilleurs dans leur discipline. Et vous voyez, pour certains, il faut juste 10 secondes pour que leur raison d'exister puisse les satisfaire. Alors, quelle est notre raison d'être? Alors, la première raison d'être en tant que chrétien, ce serait d'être disciple de Jésus-Christ, de l'adorer. Et c'est pourquoi le culte est important, parce que là, on se réjouit d'apporter un culte au Seigneur. Donc on vient dans la joie pour apporter ce culte, voyez, et donc ça change les choses dans la motivation de notre désir de venir dans la maison du Seigneur. Il y a Ernest Becker, je ne connaissais pas avant, c'est un écrivain américain qui a remporté un prix, le prix Pulitzer, de son livre Le déni de la mort, The Denial of Death. Et dans cet ouvrage, il a longuement réfléchi autour de lui sur la question de l'identité. Et il dit, chez l'enfant, il a observé que chez chaque enfant, le besoin d'avoir une valeur personnelle conditionne sa vie. À tel point, dit-il, que toute personne recherche désespérément... Alors, il a mis un mot un peu fanfaronnant, mais qui pour lui, il explique dans son livre après, ils appellent ça une signification cosmique. C'est-à-dire une signification de valeur qui va plus loin, qui touche le cosmos. C'est-à-dire, vous voyez, il dit c'est très profond. Et il avertit immédiatement le lecteur de son livre, il dit de prendre ce terme non pas à la légère. Donc, s'il lui donne cette signification cosmique, c'est qu'il a vu que c'est très très important. Il dit notre besoin de valeur est tellement puissant que nous déifions, c'est-à-dire que nous faisons Dieu, hein, ce sur quoi nous fondons notre identité et notre valeur. Nous y mettons toute la passion et toute l'intensité du culte et de la dévotion, même si nous nous estimons profondément irreligieux. y compris les athées. Il a remarqué que ce n'est pas une question de religion, c'est simplement une question d'identité. C'est tellement important d'exister, hein, et de ne pas être un bon à rien, mais être un bon à quelque chose, que ça touche toute notre existence. Nous mettons la passion, la dévotion, le culte. Pour illustrer cela, Becker utilise l'exemple de la relation amoureuse. Voyez-vous, le problème, c'est que on ne se rend pas compte, mais depuis 1968, on a vécu une révolution de quoi ? Des mœurs, voilà. En 1789, en France, on a vécu une révolution politique, de régime. On est passé du régime monarchique au régime démocratique. Toute la société s'est vue basculer dans un autre type de fonctionnement. Je ne dis pas s'il est mieux, s'il est moins bien, c'est comme ça. En 68, on a basculé d'un régime de mœurs, d'une certaine manière, vers un autre. Alors j'ai lu des petites choses qui sont un peu marrantes, bon, je vous les livre. Il paraît qu'avant 68, je ne savais pas trop, mais Madame de Gaulle, il s'appelait comment ? On ne peut plus. Yvonne, voilà, appelons-le par son prénom, Yvonne, il était assis dans sa déesse avec Charles. Okay. Et quand elle roulait à Paris ou n'importe où, et qu'elle voyait une affiche, bon, à l'époque c'était pas méchant, à l'époque les affiches, hein, mais pas comme maintenant, c'est pas agressif, mais une affiche qui lui plaisait pas, alors j'ai pas d'exemple là, parce qu'il faudrait lire Paris Match, c'est marqué là-dedans, une affiche qui lui plaisait pas, elle prenait son téléphone le lundi matin, c'était le dimanche, et elle disait, vous me retirez toutes les affiches de tous les panneaux, parce que cette affiche ne me plaît pas, elle n'est pas bien. Voilà. Vous voyez, donc ça énervait les Français, en disant, mais quoi Yvonne, elle se mêle de quoi, voilà, nous on est libres, voilà. Donc vous voyez, les mœurs étaient contrôlées par une certaine dame, ou un certain monsieur, enfin des gens, voilà, et on ne voulait plus de ça. Terminé, on ne veut plus. On ne veut plus d'autorité. Moi j'étais en 68 dans les études, et à Paris, sur les bouches de métro, c'est marqué « Il est interdit d'interdire ». Il est interdit d'interdire. C'est-à-dire, on n'acceptait plus l'autorité. L'autorité, il y en a marre. Moi, je suis l'autorité, je décide ce que je veux. C'est la révolution des mœurs. Mais ce n'est pas qu'en France. Aux États-Unis, c'est les hippies qui, au même moment, 68, ont fait la même révolution d'une autre manière. Chez nous, c'était avec les pavés. Eux, c'était avec les fleurs. Mais ça revient au même. Hein. Et ailleurs. Hein. 68, c'était un tournant de la société qui ne veut plus qu'il y ait d'autorité qui lui dise comment il faut s'habiller, comment il faut se comporter, comment il faut ceci, comment il faut cela. Et il y a une libération qui s'est produite et on vit cette libération. Okay. Là aussi, je ne ferai pas de commentaires, mais c'est comme ça, c'est historique. Et aujourd'hui, là, il y a des sociologues, des gens qui réfléchissent sur la société et qui disent, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce que l'homme s'en va ? Et pour beaucoup, dont cet exemple que je vais vous lire, il semble que beaucoup, trouvent leur identité dans l'amant, dans l'amour, vous voyez ? L'amour, la romance, l'amour. Parce que si on n'a pas Dieu, si on n'a plus l'autorité, les institutions, parce qu'avant les institutions, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, qu'elles soient de l'école, qu'elles soient tout ce qui est institutionnalisé et très très rigide, donnaient le ton, donnaient la norme de la société. Et vous vous conformiez. Hein. En Angleterre, vous voyez encore aujourd'hui un peu les vestiges de ça, où les enfants sont tous habillés pareil. Hein. Les garçons, les filles, dans l'école, etc. Bon, ça c'est un vestige, mais c'était parce que la société était bien réglée d'après les institutions qui donnaient un certain ordre à la société. Aujourd'hui, depuis 68, il y a plus. Enfin, on veut renverser tous ces ordres-là, et le seul ordre, c'est moi, c'est l'individu. C'est pour ça qu'on va vers l'individualisme. Et il y a des conséquences à ça. Et une des conséquences, c'est que l'individu, ça ne suffit pas, parce que je ne peux pas me projeter en moi-même. Donc il faut que je me projette sur quelque chose d'autre pour exister. Et c'est la romance, l'amour. Je ne sais pas si vous avez entendu à la radio, tout le monde parle de l'amour. Hein, l'amour. Voilà. Comme si c'était l'amour qui allait sauver l'humanité. Hein, alors que c'est Jésus. Ben, l'amour. Voilà ce que dit Ernest Becker dans un de ses livres. Il dit « La glorification personnelle dont l'homme moderne avait besoin, dans le tréfonds de son être, il l'a recherché dans la personne aimée. Celle-ci devient l'idéal divin en qui il réalise sa vie. Ses besoins spirituels et moraux se trouvent désormais concentrés sur un seul individu. » Alors imaginez la scène. Moi, je rencontre Michel dans le métro à Paris, ce qui est arrivé, et je concentre toute ma vie sur elle, parce que je l'aime. C'est vrai que je l'aime. Mais toute ma raison d'exister, c'est elle. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. D'après son analyse, elle n'est pas totale, mais elle reflète beaucoup de choses. Hein. C'est elle. Elle, c'est un dieu pour moi. C'est ma vie. C'est extraordinaire. Elle m'éblouit. Je vais lui chanter des chansons. Je vais lui donner ma vie. Voilà, extraordinaire. C'est formidable, etc. Qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Je ne parle pas pour moi. Moi, je suis satisfait. Je suis comblé. Je suis aux anges, j'ai une femme formidable, femme géniale, extraordinaire, merveilleuse, fantastique, mais regardez-la, est formidable. Mais qu'est-ce qui va se passer pour elle ? C'est là le problème. Qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Allô ? Réfléchissez. Eva ? Exactement. Exactement. Elle va étouffer parce qu'il y aura une telle pression sur elle d'être parfaite, d'être divine. D'accord ? Et c'est ça la contrepartie de l'idolâtrie de cet amour qui est un amour qu'on doit à Dieu parce que Dieu est parfait. Donc on peut le faire pour Dieu. Il n'y a pas de pression sur Dieu parce qu'il est comme ça. Mais la personne que j'aime, elle n'est pas parfaite. Bien que... Hein. Oui, il me contredit. Hein. Donc, il y a une telle pression sur la personne dans laquelle je mets mon amour qu'elle ne peut pas supporter, elle va craquer. Voyez-vous, elle va craquer. C'est comme ça que les gens craquent. Parce qu'ils ont, il y a une attente, ah, je vais décevoir. Et qu'est-ce qui se passe pour moi aussi ? Si par exemple, je ne sais pas, Philippe a le malheur de dire « Oui, il est bien, mais... » Oh, ça va me toucher. « Mais quoi ?» Non, elle est parfaite. Tu ne peux pas dire « mais ». Vous voyez ? Si je l'élève aussi haut que ça, n'importe quelle menace contre sa perfection est une menace pour mon idole. Vous comprenez le principe ? Voyez-vous ? Quand on met son amour dans un objet ou une personne, peu importe, hein, l'objet ça peut être la Ferrari, hein, c'est encore pire. Alors, les gens ils comptent même plus, c'est la voiture. Moi, quand on était en Bergenville, on avait un monsieur qui aimait tellement sa voiture qu'il la léchait pratiquement, quoi. Hein. Il la filmait tous les samedis, mais avec du coton. C'est formidable, quoi. Voilà, c'était sa voiture. Sa femme pouvait passer à côté, ses enfants. Non, c'était sa voiture. Oh là là, vous vous rendez compte ? Bon. Donc ça, c'est les voitures. Mais les personnes, c'est pareil. Il y a une pression sur elles. Et moi, il y a une pression inverse où n'importe quelle critique sur elles ou une menace que cette perfection, je vois qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être, je suis menacé dans mon identité. Je ne suis plus rien. Prenons un père de famille. Le père de famille, son identité, c'est que ses enfants réussissent à l'école, par exemple. Qu'ils soient dans les grandes écoles, qu'ils aient des bons salaires, etc. C'est bien ça. C'est bien, Rémi. Quand tu auras des enfants, tu voudras qu'ils réussissent ? Voilà. Donc ça, c'est bien. Mais est-ce que tu veux qu'ils réussissent dans des grandes écoles ? Ah. C'est bien que tu te sois repris. Parce que on a une voisine qui avait cet objectif que ses enfants fassent polytechnique, mine, etc. Et quand ça s'est pas fait, elle a divorcé, là, voilà, c'est parti en miettes. Et voilà. Les enfants ont fait ce qu'ils ont pu, ce qu'ils ont. Voilà. Mais vous voyez, quand vous avez des attentes, vous mettez la pression. Et quand vous, ça ne se réalise pas, vous êtes déçu, et vous n'avez plus d'identité. Donc le bon père de famille où ses enfants ne réussissent pas ce que lui a projeté sur eux et qu'il attend, eh ben, il n'a plus d'identité. Et c'est ça qu'on appelle le vide. Et Simone de Beauvoir, pourtant c'est pas une chrétienne acharnée, mais Simone, pardon ? Oui, voilà ce qu'elle dit. C'est elle qui dit. Elle dit tous les péchés sont des tentatives pour remplir les vides, a écrit Simone de Beauvoir. Comme nous ne pouvons pas supporter le vide en forme de Dieu qui se trouve en nous, nous essayons de le bourrer de toutes sortes de choses, mais seul Dieu peut le remplir. Simone de Beauvoir. Ça veut dire qu'elle a réfléchi sur la condition humaine. Mais c'est vrai, Dieu a mis un vide en nous en forme de Dieu. Tant que Dieu ne remplit pas notre vie pleinement, à la hauteur de Dieu, qui est parfait, qui est bon, on a chanté, et puis on le répète, et on doit se le répéter parce que l'ennemi veut tout faire pour nous croire le contraire, eh bien, nous allons nous attacher à toutes sortes de formes et d'objets idolâtres, y compris nos pensées, notre idéologie, notre façon de faire, etc., etc., et j'en passe des meilleurs, c'est tout le problème de l'idolâtrie. Et c'est le problème de l'être, de l'existence, de l'identité. Quelle est notre, où plaçons-nous notre identité ? Amen. Donc vous voyez, c'est pas dans le faire. Le faire, il vient après, ce qui déplaît à Dieu, tout ça. C'est dans l'être. Qu'est-ce que nous sommes ? Quelle est la valeur de notre existence ? Et Dan Snead en a parlé, puisqu'il a dit que l'efficacité dans le ministère de Jésus, puisque c'est notre modèle, passe d'abord par son identité. Le premier point, il a cité l'identité de Jésus. Jésus, a-t-il dit, et je le rappelle parce que c'est important pour ceux qui n'étaient pas là, Jésus était Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, il est né de qui ? De Marie, fils de Joseph. Hein. C'est-à-dire qu'il était considéré comme de la famille. Hein. Mais il était né de Marie. Donc dans le naturel, il était fils de Joseph, fils de David, etc. Et dans le surnaturel, il était quoi ? Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a fait en venant sur la terre avec son identité de fils de Dieu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben, il a laissé au vestiaire. Si ? Son identité de fils de Dieu, il a laissé au vestiaire. Eh oui. Il avait cette identité, mais cette identité, il ne l'a pas utilisée, si vous voulez. Et il l'a mis au vestiaire. Il a dit, je suis fils de Dieu, et aussi je suis fils de l'homme. D'ailleurs, dans Matthieu 16, 24, vous pouvez le prendre, hein, Matthieu 16, 24, quand il parle de l'identité, qu'est-ce qu'il dit, Matthieu 16, 24 ? Alors, vous connaissez par cœur ? Qui dit-on ? Et ça, il l'a fait à un moment stratégique dans sa vie prophétique. Il l'a fait à la fin de ses 3 ans de ministère, juste avant d'aller sur la croix. Il est monté en Galilée, tout en haut, le plus au nord. Il a posé cette question à ses disciples, et après il est descendu donner sa vie à Jérusalem. C'est très symbolique. Et il leur a posé cette question, ses disciples, après 3 ans de ministère. Il leur a dit, vous, qui dites-vous que je suis moi, le fils de l'homme? Attention, il faut lire toute la parole. Hein. Si vous lisez qu'une parole, vous comprenez que la moitié des choses. Il a dit, qui dites-vous que je suis moi, le fils de l'homme? C'est-à-dire le fils de Marie, de Joseph, de David, etc. Dans le naturel. Là, mon identité de fils de Dieu, elle existe, mais elle est au vestiaire. Je l'ai laissé. Voyez-vous? Et Jésus a pris la condition humaine, totalement. totalement. Au point qu'il ne pouvait pas faire de miracles. Qui est-ce qui faisait les miracles? Voilà, c'est bien. Il y en a qui ont bien entendu le message de Dan Snead. Le deuxième point, c'est le Saint-Esprit. Dans l'identité, c'est le Saint-Esprit. Okay. Il laissait le Saint-Esprit agir dans sa vie. Donc lui ne faisait pas les miracles, c'est le Saint-Esprit en lui qui faisait les miracles. C'est l'esprit de puissance, l'esprit de résurrection, l'esprit qui lui agit. Et qu'est-ce qu'il fait avec nous? Ben, il nous donnait son Saint-Esprit et nous pouvons faire les mêmes miracles et même de plus grand. C'est ça que Dan Snead a insisté. Même de plus grand, parce que le Saint-Esprit, il est puissant. Il est puissant. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, l'identité est importante. C'est l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu, mais qu'il a laissé. Ensuite, le Saint-Esprit. Et ensuite, la relation avec son Père. Donc, vous voyez, la Trinité qui agit dans les trois dimensions, sa relation avec son Père, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui faisait n'importe quoi. Il faisait ce que Jésus voyait faire au Père, et quand il agissait, le Saint-Esprit, eh bien, il approuvait les actes de Jésus. Et c'est ce que nous devons faire. Dans notre identité, nous devons avoir cette identité de fils adoptif de Dieu. Nous ne sommes pas des fils naturels de Dieu. Jésus était fils naturel de Dieu. Nous sommes fils adoptifs, mais néanmoins fils. Donc nous avons le même statut que Jésus, dans l'identité. Et c'est ce que veut dire 1 Corinthiens. C'est quoi le verset que tu as cité? 1 Corinthiens 2 5, 17. J'ai toujours des problèmes de mémoire. J'ai une mémoire visuelle, mais pas de chiffres. 2 Corinthiens 5, 17. Je pense que c'est ça. Hein. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors certains interprètent ça de la fausse manière. Hein, beaucoup de chrétiens, la plupart des chrétiens interprètent ça de la fausse manière. Ils disent, si quelqu'un est un Christ, toutes choses anciennes sont passées. Donc ils disent, toutes choses anciennes sont passées, je suis chrétien, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Je suis un chrétien, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous écoute? Oui, non? C'est juste? C'est pas juste? Qu'est-ce qui manque? Il manque le si. Voyez-vous, la parole de Dieu, il faut le lire dans tous les mots. Si je dis je suis chrétien, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, je suis mal parti parce que mon orgueil naturel va prendre le dessus. Et je vais croire que les choses anciennes sont passées, que les choses sont devenues nouvelles. Mais si je lis la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, c'est marqué si. Si. Hello? Si. Est-ce que tu es à 100% 7 jours sur 7 tout le temps en Christ? Pose-toi la question. On n'est pas tous à 100% 7 jours sur 7, 24 jours sur 24 en Christ, voyez? On est dans une autre identité. Alors bon, c'était pas le message de Dan Snead, mais je vous le rajoute. C'est qu'il y a un cinquième point à son message, Dan Snead, c'est l'identité naturelle de Jésus. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Jésus n'a pas rejeté le fait qu'il soit fils de l'homme. Il a assumé pleinement. Puisqu'il est venu pour ça. Il est venu pour racheter l'humanité. Vous le saviez ça, les jeunes? Il est venu pour racheter l'humanité. Ça veut dire quoi, ça, racheter l'humanité? C'est un gros mot, ça. Racheter l'humanité, ça veut dire quoi? Le rachat, la rédemption, enfin voilà. C'est tous ces mots théologiques qui n'ont pas de sens si on n'émet pas une compréhension derrière. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jésus est venu pour racheter l'humanité. Noëlla? Pardon? Sauver? Mais sauver de quoi? Pardon? Payer le prix du péché, sauver de la mort. J'attends autre chose. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a raté? Oui. Alors je vais vous essayer de faire raisonner RNC, CEF, Royaume de Dieu. La société, c'est le propre de l'homme. un homme, une femme qui vit en dehors de la société n'est pas un homme, une femme. Il y a des essais qui ont été faits, même par hasard, qui ont été faits, hein, des personnes humaines qui ont vécu avec des animaux, par exemple. Ce n'est pas devenu des hommes. On a des expériences, même naturelles, qui montrent que si un homme, une femme n'est pas placé dans une société, ça ne devient pas un homme. Alors, vous croyez ça? Vous croyez au salut en Jésus-Christ? Ok, mais ça, il faut le croire aussi. Puisque c'est la condition humaine. Il faut aussi qu'on se ramène à ce que nous sommes. Jésus n'a pas rejeté qui il était. Et il a pris soin de sa mère à la croix. Il a dit à Jean, tu t'occupes de ma mère. Et Jésus n'a pas dit, oh, je suis fils de Dieu, ça y est, c'est terminé, je m'envole, et puis bye bye. Non, il a pris soin des siens, il a, etc. Vous voyez, il faut qu'on reste un petit peu là, pratiquement, sur la terre. Parce que Jésus ne nous a pas mis dans le ciel, il nous a mis sur la terre. Adam, il l'a placé sur la terre, il a fait la terre, tout était bon, il a dit de dominer. Dominer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire gérer. Le mot, c'est gérer, administrer, dispenser les choses qui vont sur cette terre. Et c'est à ça que nous sommes appelés en tant que fils de l'homme. C'est à gérer. Vous voyez, on pense au salut de la mort, c'est bien. Mais sauver de la mort et que tous les autres, voilà, ils ne sont pas sauvés, je veux dire, c'est pas humain, ça. Nous sommes solidaires les uns des autres. Parce que notre identité naturelle est issue de l'environnement dans lequel nous sommes, les influences respectives, notre façon d'être élevé par les parents, père, mère, frères et sœurs, etc. Tout ça, ça forme notre personnalité, ça forme notre identité, voyez-vous, humaine. Et Jésus, pendant 30 ans, il n'a pas exercé de ministère de la parole, mais il a exercé son identité de charpentier. Il était... Vous vous êtes posé la question, pourquoi en 30 ans il n'a pas commencé le ministère? Parce qu'il a voulu donner un exemple de rachat de l'humanité. Il a pris le marteau, il a tapé les clous, il a fait des choses, etc. Vous voyez, c'est ça. Et c'est pour ça que j'aime bien cette famille RNC, parce qu'elle a compris ça. Elle a compris ça. C'est que nous, une fois que nous sommes sauvés, c'est bien de la mort. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais on s'incarne dans la société. On s'incarne, c'est-à-dire on amène dans la société le rachat. C'est nous, c'est pas Dieu, c'est nous qui devons racheter la société, c'est-à-dire amener le sel sur la terre, c'est-à-dire changer les choses, changer l'environnement où nous sommes. Les gens doivent dire de nous, waouh, cette femme, cet homme, bon, ils ont changé l'environnement. Vous voyez, c'est ça notre but, notre raison d'être en tant que fils de l'homme et fils de Dieu. Racheter l'humanité, c'est racheter la société tout entière. Et RNC, ils ont autant d'églises que d'œuvres, parce qu'ils croient à ça. Parce qu'ils s'incarnent dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine juridique, dans le domaine des arts, dans le domaine des lettres, et que sais-je. Pardon ? L'entreprise, l'argent, etc. Vous voyez, quand on a compris ça, c'est que là, on n'attend pas que le Seigneur vienne nous chercher. Il le fera quand il pourra. Et on ne rentre pas dans des paranoïas du type « Waouh, les Illuminati sont là, ils vont nous sauter dessus. » Voilà. Bon, on le sait, c'est une réalité. Mais on s'occupe des affaires de notre Père qui nous a placés au milieu d'hommes et de femmes qui ont besoin de voir la société rachetée. C'est-à-dire la manière dont nous gérons notre argent différent, la manière dont nous parlons aux autres, la manière dont nous développons des relations, la manière dont nous faisons notre économie, notre argent, dont nous éduquons nos enfants, vous voyez, tout le domaine de l'éducation, etc., dont nous faisons la louange, de tout, la musique, etc. C'est ça à quoi nous sommes appelés. Si les chrétiens ne comprennent pas ça, c'est des tristes chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur le salut, sauver des âmes. C'est quoi les âmes ? C'est des gens qui sont incarnés, qui ont le lundi matin une activité et à laquelle je suis à côté et je dois témoigner de ce que je suis en Jésus-Christ. Et c'est là qu'on mesure la maturité du chrétien. Hello ? Qui met en pratique. Vous me suivez ? Ça, c'est le défi. Ça, c'est l'enjeu que nous avons. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Prenez dans 1 Pierre, je vais terminer là-dessus, 1 Pierre chapitre... Non, c'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Je vais lire le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés de sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts. J'ai bien entendu ? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La foi nous sauve. La vertu. La vertu, c'est la force de l'âme. La force de l'âme. La force que j'ai de vivre. Vous voyez ? Donc, toute la force que j'ai doit se concentrer sur la suite, là. Écoutez bien. Pour joindre la foi, la vertu, à la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la persévérance, la piété, la fraternité, l'amour. Vous voyez, toute une panoplie de choses qu'il faut rajouter à la foi. Et ça, ça dépend de nous, pas de Dieu. C'est nous qui devons mettre en pratique et rendre dynamique le royaume de Dieu dans ma vie. Et qu'est-ce qu'il dit après ? Les conséquences. Quelles sont les conséquences de tout ça ? Si vous faites cet effort de joindre votre foi, la vertu, c'est-à-dire la force de l'âme pour être témoin, ambassadeur, là où vous êtes, dans la société, où Dieu vous a placé, où Dieu vous a choisi. Eh bien, il est dit au verset 8, « En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, ça veut dire qu'il y a une croissance qu'il faut opérer dans ces choses-là, elles ne vous laisseront pas sans activité et sans fruit. » Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, on a l'impression que tout ça, oui, mais ça, c'est pas spirituel. Non, c'est hautement spirituel. C'est aussi spirituel que le culte de dimanche. Parce que vous verrez, vous connaîtrez le Seigneur Jésus-Christ au travers de cette activité d'ambassadeur dans le monde et dans la société. Amen. C'est écrit là. Mais celui qui, ces choses existent, elles ne vous laisseront pas sans activité ni fruits, mais celui qui ne les possède pas. Vous voyez, l'apôtre Pierre est très pratique, hein. Même il est pêcheur, tout ça, mais il sait parler, hein. Il sait parler, sous l'inspiration de cet esprit. Donc il dit, celui qui les a, super, ça veut devenir un chrétien mûr, équilibré, inscrit dans sa société comme témoin, sel et lumière de la terre, et il va porter du fruit, il va se développer harmonieusement. Mais celui qui ne les possède pas, qu'est-ce qui va se passer ? C'est marqué ? Celui qui ne fait pas ça, voilà ce qui va se passer. Il est aveugle. Il a les yeux fermés. Il a oublié la purification de ses anciens péchés. Hello. Hello. Il a oublié. La purification de ses anciens péchés, c'est pas « Oh Seigneur, super, je suis sauvé, tu m'as sauvé, puis c'est terminé, je remercie le Seigneur et tout, et je fais n'importe quoi. » Non, je suis reconnaissant de ce que mes péchés ont été pardonnés, je suis dans la grâce absolue. Je reconnais la grâce absolue qui m'a été faite et je fais des efforts pour mettre toutes ces choses à disposition de ceux qui m'entourent pour qu'ils voient le royaume. Pour qu'ils voient le royaume tel que Dieu l'a voulu, la société telle que Dieu l'a voulu. Voilà. C'est pourquoi, frère, ponctue l'apôtre Pierre, efforcez-vous, oui, reprends le mot, l'effort, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. Notre vocation, c'est d'être des témoins du Seigneur Jésus-Christ dans notre identité naturelle, comme Jésus l'a été dans son identité naturelle. Ok ? C'est ainsi, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais, c'est formidable ça. Souvent on bronche, c'est-à-dire on bouge, on n'est pas stable. Vous serez stable, rien ne peut vous ébranler. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Waouh ! Quel message ! Ah, c'est un message pratique. Pratico-pratique. Ce n'est pas un truc, voilà. Non, c'est quelque chose qui doit s'incarner. Notre foi doit s'incarner dans la société présente. Et alors, ça va changer notre identité. Ça va changer notre identité. Notre identité naturelle. Parce que notre identité spirituelle n'a pas besoin d'être changée, elle est instantanée. L'identité naturelle, c'est le fruit de tout un tas d'évolutions et de crises, voilà, jusqu'à la vieillesse. Aujourd'hui, il y a des crises d'identité pour les vieux, parce qu'ils sont rejetés, ils ne produisent plus, etc. Voilà. Donc il y a des crises. Mais là, il n'y aura pas de crise. Parce que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, que vous soyez adulte, que vous soyez vieux ou très vieux, vous serez toujours des témoins. Partout où Dieu vous place. Bien sûr, moi je ne peux pas être témoin de jeunes de 18 ans, je ne connais pas leur langage et tout ça, mais je peux être témoin de gens de mon âge, etc. Vous voyez, on peut, jusqu'à la fin de notre vie, nous sommes témoins de Jésus-Christ dans notre société. Incarnés et transformés. Alors, l'apôtre Paul le dit d'une autre manière, de manière un petit peu plus intellectuelle, mais de manière aussi profonde. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 3. Il dit, vous êtes notre lettre, notre épître, si vous voulez, notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, et non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Autrement dit, Dieu nous prend dans notre identité culturelle. Parce que si on ne parle pas de culture, on ne parle pas d'identité. On ne peut pas être un homme sans être intégré à une culture. Il nous prend comme identité culturelle d'un homme. Et il veut que l'évangile du royaume nous transforme pour que nous soyons rendus à la société comme des lettres vivantes et lues par tous les hommes. Des lettres ouvertes. Des ouvrages ouverts, que les gens puissent lire. Ah ben tiens, Philippe, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on a reçu comme témoignage côté de Bristol. Et Philippe, c'est pas n'importe qui. Un témoignage au travail, et c'est vrai pour d'autres. Bruno aussi a reçu le titre de meilleur ouvrier, etc. Ça, c'est une reconnaissance des autres, qui reconnaissent le fruit de la vertu qu'on développe. Voyez-vous ? Ils passent sur les défauts. Ils voient l'esprit. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il peut avoir tout plein de défauts, mais il va changer l'ambiance. C'est l'ambiance qui est importante. L'ambiance, ça ne saisit pas. Mais on le sent. On sent qu'il n'y a pas de tension. La personne, bon, de temps en temps, il y a des tensions. Heureusement. Hein, parfois, ce n'est pas bon d'être trop bon. Je sais que Samuel, à un moment donné, à Alpha, ils m'ont dit, mais est-ce que Samuel, à un moment donné, il s'est fâché avec sa sœur? Je dis, oui, bien sûr. Ah bon? Donc, ouais, c'est un ange. Bon, lui, il cherchait vraiment à être bien. C'est bien. Hein. Mais n'ayez pas peur des défauts, parce que les gens, ils se reconnaissent aussi dans les défauts, mais ils voient l'ambiance que vous apportez. Vous changez, vous transformez l'endroit où vous êtes. C'est ça qui est important. Amen. Jésus changeait l'ambiance où il était. Il était dans les fêtes, il était dans la noce de Cana, il était aux enterrements, il était au mariage, il était partout. Il était partout, il était invité partout. Mais il changeait le moment, parce qu'il savait dire au moment, il savait être d'une certaine manière. Il était différemment parce que son être, son identité naturelle a été transformée par l'évangile. Et c'est ça que Dieu veut pour nous, pour que de sauver, nous devenions témoins. Amen. Pour que le Sauveur devienne Seigneur. Sauveur et Seigneur. Seigneur de nos vies, Seigneur de nos circonstances, Seigneur de notre environnement, Seigneur de notre relation, Seigneur de toutes ces choses qui changent et bouleversent la société. Il était dit des premiers chrétiens, ces gens-là ont mis le monde d'alors sens dessus, dessous. Dessus, dessous. Dessus, dessous. Il faut que nous mettions notre monde sens dessus, dessous. Parce que les chrétiens, ils enterraient les morts alors que les païens ne le faisaient pas. Oui, c'est quoi ça? Vous voyez, ils prenaient soin de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de formidable et c'est ce que fait RNC. On est très fiers de pouvoir rejoindre cette famille d'église qui croit à ces choses et qui croit au ministère dans la société aussi important que le ministère dans l'église. Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te remercions parce que tu as montré l'exemple. L'exemple personnel, Seigneur, de cette double identité naturelle et surnaturelle. Et tu as vécu naturellement dans le surnaturel, Seigneur, parce que tu nous as montré l'exemple de cette communion avec le Père et de cette démonstration de l'Esprit au travers du Saint-Esprit de Dieu, au travers duquel tu accomplissais les miracles. Et tu as dit, nous ferons des choses encore plus grandes. Seigneur, que nous puissions croire à ces choses pour que nous puissions entrer dans la même dynamique du royaume pour l'avancement de ton règne au milieu de ce monde qui se perd et qui a besoin de chrétiens engagés et qui croient fermement dans ta parole. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu fais de nous, ces ambassadeurs, afin que ton royaume, Seigneur, puisse avancer.